11 mars 2018. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Comment allez-vous?
Je vais fort bien, et vous?
Ça va bien, merci, même si l'heure avancée me rentre un peu dedans.
Oui, oui, c'est toujours... c'est un couteau à deux tranchants, comme on dit.
Hein? Oui, oui, tout à fait, parce qu'il fait clair plus tard, alors ça nous rend de bonne humeur, mais moi hier, à minuit, j'étais tout éveillée.
Oui, ce matin, c'était pénible.
Oui, parce que la nuit a été courte. Vous aussi, ça a été la même chose?
Oui.
Du décalage horaire?
Oui, oui. Oui. Oui, avec un jeune enfant aussi, l'horloge biologique ne s'adapte pas instantanément.
C'est ça, mais il faut se dire qu'on est à l'heure d'été. Juste en entendre cette expression, il me semble que ça
lumière,
nous donne de l'espoir.
Oui, absolument. Ouais. 12 mars, j'y vais de suite. Mm-hmm. Journée mondiale contre la censure sur Internet depuis 2008. Donc, on souligne cette journée qui est à l'initiative de Reporters sans frontières. Il faut le rappeler que Internet n'est pas libre dans tous les pays. C'est lié, bien sûr, à la liberté de presse, la liberté d'opinion. On en a parlé abondamment avec l'affaire de Raif Badawi, qui est emprisonné pour des propos qu'il a eus en Arabie Saoudite. Donc, et il est loin d'être le seul, bien
ah
sûr,
ouais.
à...
Mais c'est un cas de figure
absolument.
À souligner.
Événement marquant, en ce 12 mars, on parle d'une possible tempête, ou bref, de quelques précipitations de neige qui devraient arriver prochainement. Eh bien, en 1888, une terrible tempête s'abat sur le nord-est des États-Unis, faisant plus de 400 morts, on n'arrive pas bien sûr, et laissant quelques 125 cm de neige.
Wouhou! Alors, c'est quoi ça, la tempête du millénaire? Ou...
Ah, je ne sais pas si ça a été battu et je n'ai pas réussi à savoir à quel point le Canada, le Québec avait été affecté par
Mais
cette 400 tempête.
400 morts!
125 centimètres, 1,25 m, c'est... et on était au mois de mars, donc ce n'était pas la première neige, donc les bancs de neige devaient être plus hauts que 125 centimètres.
Ouais. Ah oui.
Donc,
On reste à la maison. On espère avoir du lait un peu pour notre café.
Oui, je ne sais pas, ça a pris combien de temps ensuite pour pouvoir permettre aux gens de se libérer de cette tempête.
J'aimerais ça avoir des... Ben, j'aimerais ça. Il y a certainement eu un documentaire pour quelqu'un qui a pu filmer cette
tempête. Ben, 1888, c'était avant l'ère du cinéma.
OK, d'accord.
Mais possiblement...
Je me souviens plus de l'année. C'est les 125 centimètres qui m'ont frappé un peu l'imaginaire.
On fait un petit saut dans le temps. 1945, à l'âge de 15 ans, Anne Frank, auteur du journal d'Anne Frank, bien sûr, décède dans un camp nazi en Basse-Saxe. 1964, en Ontario, le ministre William Davis fait abolir la loi qui permet la ségrégation raciale des écoles. 1968, encore un 12 mars, l'île Maurice accède à l'indépendance. 1969, mariage entre Sir Paul McCartney et Linda Eastman. 1985, à l'ambassade de Turquie à Ottawa, trois terroristes arméniens tuent un gardien, prennent des otages et se rendent 4 heures plus tard. 1997, la Cour suprême statue que la danse contact tarifiée est indécente au sens de la loi canadienne. 12 mars 2001, dans une décision finale, l'OMC donne raison à la France et à l'Union européenne qui bannissent l'amiante. 2002, il s'en est fallu de peu, les astronomes détectent... un astéroïde de 50 cm de diamètre, ce qui est une taille assez importante qui aurait pu détruire une ville de taille moyenne, alors qu'il avait frôlé la Terre 4 jours auparavant. Donc, ils ont découvert l'astéroïde après son passage. Il est passé à une distance de 463 000 km, ce qui apparemment n'est pas beaucoup. Si on parle de la distance du grand espace, s'il avait atteint la Terre, cet astéroïde de 50 cm aurait pu faire un cratère de plus de 32 km de diamètre. Donc, ça aurait pu être une catastrophe assez notable. C'était en 2002.
On l'a échappé belle.
12 mars, anniversaire de naissance de l'écrivain américain Jack Kerouac, né en 1922. En 2002, on perdait le peintre québécois Jean-Paul Riopel. En 2001, le romancier américain Robert Ludlum. Et 12 mars 1955, anniversaire du décès du saxophoniste de jazz Charlie Parker, dit Bird.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. « À la une de la presse, exclusif, Montréal, sol contaminé, rejeté en pleine nature, de grands chantiers infiltrés par un groupe criminel. L'ancienne usine Dominion Structural Steel, le centre communautaire d'Outremont, le nouveau centre d'entraînement de l'Impact, une organisation criminelle, a disposé illégalement des sols contaminés de plusieurs chantiers montréalais, révèle des documents d'enquête obtenus par la presse, un problème que Québec et Montréal tentent de régler avec un projet pilote sur la traçabilité des sols annoncé aujourd'hui. Pause famille, sans fausse note, découvrez notre petit guide de survie pour une fête d'enfants réussie. Télévision, jouer les méchants risqué ou payant? C'est une image, une scène de la très célèbre télésérie Fugueuse. Dans les mises à jour, Katmandou, un bimoteur à hélice Dash 8 de Bombardier qui transportait 71 personnes s'est écrasé lundi en tentant de se poser à Katmandou au Népal, faisant au moins 50 morts selon l'armée. Un porte-parole de l'armée a dit que le bilan demeure incertain, mais qu'il est clair qu'au moins 50 personnes ont perdu la vie. 31 personnes sont mortes sur le coup et 9 autres dans 2 hôpitaux de Katmandou, a déclaré le porte-parole de la police, précisant que 23 autres personnes avaient été blessées. L'avion qui transportait 67 passagers et 4 membres d'équipage a chuté sur un terrain de football près de l'unique aéroport international du pays. Selon des témoins oculaires, l'avion s'est écrasé en effectuant une deuxième tentative d'atterrissage. Autre catastrophe, cette fois-ci aux États-Unis, 5 personnes périssent dans un accident d'hélicoptère à New York. Donc, 5 personnes sont mortes après qu'un hélicoptère de la compagnie Liberty Helicopters se soit abîmé dimanche dans le détroit de l'East River à New York au crépuscule. Après l'accident, les autorités avaient fait état de 2 morts et de 3 blessés, mais en début de nuit, la police de New York a déclaré que les 5 passagers de l'appareil ont perdu la vie dans l'accident. La police a aussi indiqué qu'une 6e personne, le pilote, a réussi à s'extirper de l'engin pour ensuite être secouru par un bateau qui passait par là. L'hélicoptère de couleur rouge était affrété pour une séance de photos quand il a sombré près de la résidence officielle du maire, Gracie Mansion. Une flottille de bateaux s'est précipitée pour rechercher des survivants. Une vidéo tournée par un passant et publiée sur Twitter laisse voir un hélicoptère tenter de se poser sur l'eau. Il a ensuite basculé sur le côté tandis que ses rotors frappaient l'eau avec violence. Dans les coulisses du Lab École, c'est un article signé Suzanne Colpron. Dans la presse, évidemment, la vie du Lab École, du trio formé de Pierre Thibault, de Pierre Lavoie et de Ricardo Larrivé, pourrait être plus longue que prévu. Ça va dépendre des besoins, a indiqué vendredi le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qui a passé la semaine en France avec le premier ministre Philippe Couillard. La décision sera prise plus tard, mais le gouvernement n'exclut pas l'idée de répéter l'expérience l'an prochain. Doté d'un budget de 1,5 million par année, le Lab a été mis sur pied il y a un an pour repenser les écoles primaires et secondaires en dehors du cadre de référence habituel. Des murs végétaux, pourquoi pas? Des bibliothèques dans les corridors, intéressant. Des classes qui se prolongent dehors, oui. Des cuisines expérimentales, bonne idée. Depuis janvier, l'équipe du Lab occupe de vastes locaux baignés de lumière au deuxième étage d'un vieil immeuble de la rue Saint-Joseph-Est à Québec que la presse a visité. Que fait l'équipe du Lab? Des dessins, des maquettes, des réunions et de la planification. Quand les projets seront-ils choisis? En mai, au plus tard en juin. Combien y aura-t-il d'écoles marquées du sceau Lab École? 5, peut-être 6 dans un premier temps. Il faut savoir qu'il y a 170 projets d'école dans le collimateur du ministère de l'Éducation pour le Plan québécois d'infrastructure 2018-2028. Comment fonctionne le Lab École? C'est une organisation sans but lucratif, OSBL, qui compte 2 employés à temps plein, quelques employés à temps partiel, beaucoup de pigistes et de bénévoles. Au cours des derniers mois, Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivé ont visité 35 écoles. Le Lab possède 3 comités, un comité sur l'environnement physique, un autre sur les saines habitudes de vie et un dernier sur l'alimentation. Qui est payé? Hélène Cyr, directrice générale du Lab, et Dominique Lafrance, gestionnaire des opérations, sont les 2 seuls employés rémunérés à temps plein. Les autres sont à temps partiel, 2 jours par semaine, ou pigistes, Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivé ne sont pas payés. La courte victoire du tout nouveau chef de l'opposition en Ontario, Doug Ford, n'est plus contestée par sa plus proche rivale, Christine Elliott. M. Ford et Mme Elliott se sont rencontrés hier au lendemain de l'annonce par le Parti progressiste conservateur de la victoire de l'ancien conseiller municipal de Toronto. Reconnaissant finalement sa défaite, Mme Elliott a déclaré dans un communiqué qu'elle faisait confiance aux résultats de l'élection. SAQ, une pétition pour consigner les bouteilles de vin. Quelque 218 millions de bouteilles de vin et spiritueux sont vendues chaque année et seulement 14 % du verre placé dans les bacs de recyclage est recyclé, dénoncent les instigateurs d'une pétition réclamant une consigne sur les bouteilles de vin et spiritueux. La dite pétition, lancée en décembre dernier, est maintenant en ligne sur le site Internet de l'Assemblée nationale. La Confédération des syndicats nationaux, le syndicat des métallos et le Syndicat canadien de la fonction publique milite pour que la Société des alcools du Québec assume ses responsabilités et collecte les bouteilles usagées. Les organisations proposent que la SAQ prenne en charge la collecte des bouteilles usagées et crédite la valeur des bouteilles vides sur la carte fidélité de la SAQ déjà existante. Des dizaines de milliers de Catalans ont manifesté à Barcelone hier à l'appel d'une association séparatiste pour réclamer la formation d'un gouvernement déterminé à avancer vers la sécession. Selon la police municipale, 45 000 personnes ont participé au défilé « La République maintenant » organisé par l'Assemblée nationale catalane, puissante association séparatiste. Beaucoup d'entre elles portaient des pancartes montrant des politiciens séparatistes catalans en exil ou emprisonnés. Même s'ils ont remporté la majorité absolue des sièges au Parlement catalan aux élections régionales du 21 décembre dernier, les partis séparatistes ne se sont pour l'heure pas entendus pour investir un gouvernement régional. Le débat d'investiture d'un nouveau président régional prévu aujourd'hui a dû être reporté, signe dit le candidat actuel, l'ex-président de l'Assemblée de l'ANC, Jordi Sanchez, étant en détention provisoire près de Madrid, comme 3 autres dirigeants indépendantistes. Et les Cubains ont élu hier le Parlement, dont sera issu le mois prochain le successeur du président Raúl Castro, un remplacement qui fera basculer la grande île caribéenne dans une nouvelle ère. Ces élections générales sont les premières à se tenir depuis le décès survenu fin 2016 du père de la Révolution cubaine, Fidel Castro. Le processus singulier de ces élections générales se répète tous les 5 ans. Un total de 605 candidats ont été investis pour autant de sièges de députés, mais ils doivent tout de même être élus. Le 16 avril, les députés élus hier désigneront parmi eux les 31 membres du Conseil d'État ainsi que le président de cet organe exécutif suprême qui succédera à Raúl Castro. Mmh.
penses-tu que je suis? Responsable, penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois que t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux, crie que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Le plus récent extrait d'Eddie de Preto, Normal, qui s'est tiré de son album Cure, qui est paru la semaine dernière. C'est un album qui mérite d'être écouté en entier. On s'en parlait hors micro à quel point un artiste fort prometteur, fort intéressant.
À la une du Devoir, une photo, le Japon se souvient. Le Japon s'est figé dans le recueillement dimanche à 14h46, heure locale, au moment précis où le 11 mars 2011 s'était produit un terrible tremblement de terre, suivi d'un tsunami meurtrier et d'une catastrophe nucléaire à Fukushima. Celle-ci n'a officiellement pas causé de décès direct, laisse encore derrière elle plus de 73 000 déplacés. Commission des droits de la personne, des déboires qui alarment les employés. Un rapport éclaire les problèmes de retard qui nuisent à l'image et à la crédibilité de l'organisme. Agronome lié à l'industrie des pesticides, l'Ordre s'engage à resserrer les règles de rémunération. Chine, Xi Jinping, un président digne de Mao Tse-tung. Le Parlement chinois a aboli dimanche, lors d'un vote à bulletin secret, la limitation des mandats présidentiels, laissant les mains libres à Xi Jinping pour imposer sa vision à long terme d'une superpuissance toujours plus soumise au Parti communiste. Chefferie du PPC, Parti progressiste conservateur, en Ontario, Elliott concède la victoire à Doug Ford. Festival du film sur l'art, le FIFA, Image plurielle du Québec. Prix écran canadien Hochelaga récolte 4 prix. Et la voiture électrique est-elle vraiment écologique? L'inefficacité et les longs délais de traitement des plaintes inquiètent des employés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui disent craindre pour la réputation de l'organisme. C'est ce que révèle un rapport accablant commandé par Tamara Termitus à son arrivée à la présidence il y a un an. Réalisé en avril 2017 pour le consultant Jean-Pierre Hotte, le diagnostic organisationnel décrit la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse comme une organisation avec une grande expertise, mais bureaucratique, figée, sclérosée, qui ne s'est pas bien adaptée à la modernité. On observe un manque d'efficacité, d'efficience, bref, une nécessité d'accroître la performance organisationnelle, lit-on dans ce rapport réalisé à la suite d'entrevues semi-structurées avec 10 employés de la commission, faisant partie de la structure de la présidence. Onze éminents chercheurs et professeurs réclament à Québec et à Ottawa des fonds indépendants afin de mener des recherches sur les impacts des pesticides. Alertés par les révélations du Devoir et de Radio-Canada à propos d'allégations d'ingérence dans un centre de recherche financé en majorité par des fonds publics, ils se disent réellement préoccupés de l'influence indue sur la recherche concernant ces produits toxiques. Cette influence provient aussi du fait que la majorité des études utilisées par Santé Canada pour autoriser ou non un pesticide émanent de l'industrie agrochimique, pointe-t-il. Les fonds pourraient prendre la forme d'une initiative ciblée ou être administrés par les Fonds de recherche du Québec en santé, une structure déjà existante, illustre Maryse Bouchard, professeure à l'Université de Montréal. L'industrie pourrait aussi remettre des fonds de recherche à une tierce partie non liée, ajoute-t-elle comme piste de solution. La plupart des scientifiques, même dans l'industrie, vont rester honnêtes, mais l'industrie qui a payé voudra présenter les résultats sous un meilleur jour. Et c'est clair que si le patron dit « on ne publie pas », les scientifiques ne peuvent pas publier, expose-t-il. Le loup est dans la bergerie, résume quant à elle Mme Bouchard, alors celui qui expose, c'est Sébastien Sauvé. Le Bloc québécois doit se fier à ses membres, selon l'ancien ministre Gilbert Paquette. Un personnage bien connu au sein du mouvement souverainiste espère que l'actuelle crise au sein du Bloc québécois pourra être dénouée grâce à la tenue d'un éventuel référendum. Gilbert Paquette, qui a notamment été le président des organisations Unies pour l'indépendance et qui a appartenu au cabinet du défunt premier ministre René Lévesque, estime qu'il est crucial pour cette formation politique de retourner aux membres pour pouvoir dénouer l'impasse. Dans le fond, ce qu'il faut demander aux membres, c'est « êtes-vous d'accord pour que Mme Ouellette continue avec son orientation actuelle », résume-t-il. Il juge qu'il est urgent pour eux de répondre à une pareille question, car la bisbille au sein du Bloc québécois ne peut certes pas s'éterniser. La dissension au sein du Bloc québécois risque de faire disparaître le parti, selon un sondage léger, le Journal de Montréal, publié samedi. Si des élections se tenaient aujourd'hui, le Bloc obtiendrait à peine 12 % des votes au Québec, un creux historique pour la formation politique dirigée par Martine Ouellette. Éducation baisse marquée des inscriptions en soins infirmiers. Stress, heures supplémentaires, manque de personnel, épuisement, les conditions de travail difficiles dans lesquelles doivent évoluer les infirmières sont dénoncées depuis longtemps dans les médias où l'on peut lire et entendre presque chaque semaine des témoignages de ces professionnels de la santé qui en ont assez. Pour un jeune qui doit faire un choix de carrière, le métier d'infirmier ou d'infirmière demeure-t-il attrayant? En 2014, 3748 demandes d'admission pour le programme avaient été reçues par le SRAM à l'issue du premier tour. Cette année, ce nombre s'est élevé. Le SRAM, c'est le Service régional d'administration du Montréal métropolitain. Alors donc, ça avait été reçu par le SRAM, ces demandes d'admission, à l'issue du premier tour. Cette année, ce nombre s'est élevé à 2948 à la date limite du 1er mars. Il s'agit d'un recul d'environ 22 % alors que la baisse de l'ensemble des demandes d'admission est de 6 % Du côté du Service régional d'admission au Collège de Québec, le SRAC, qui compte 15 établissements contre 32 cégeps pour le SRAM, la baisse de la demande pour le programme de soins infirmiers au premier tour a été de 17 % entre 2014 et 2018, mais de seulement 3 % de 2017 à 2018. La présidente de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, Lucie Tremblay, ne semble pas de son côté constater un recul de l'attraction envers le métier et souligne que le prochain examen d'entrée dans la profession accueillera l'une de ses plus grandes cohortes. Après le bois d'œuvre et le papier surcalendré, le papier journal et d'autres papiers d'impression pourraient venir alimenter le torchon qui brûle déjà depuis plusieurs mois entre le Canada et les États-Unis en matière de commerce. Le département américain du commerce devrait faire savoir lundi ou mardi s'il imposera un droit anti-dumping sur les exportations de papier des producteurs canadiens destinés à leurs clients américains. Restez avec nous, la suite de l'émission après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
comme un lion en cage, à me chanter des chansons pour trouver le courage d'aller au dépanneur, ramener des bouteilles vides, faire un peu de ménage avant que ma lionne revienne de voyage.
De son album Ornithologie la nuit, qui lui a valu un Félix, c'était La Maison Sauvage par Philippe B.
Journal de Montréal à la une. Alors, salaire minimum, endetté pour nourrir ses enfants, Denise Marchand, qu'on voit derrière son carrosse à l'épicerie, a élevé seule ses trois enfants alors qu'elle gagnait 9 $ de l'heure. Elle dit encore traîner des dettes de 14 000 $ majoritairement à cause de la nourriture. Carte de crédit, explosion des plaintes pour fraude. 1100 signalements à Montréal l'an dernier. Les corps policiers ne s'entendent pas. Des victimes se disent abandonnées. Les plaintes pour fraude de cartes de paiement ont explosé depuis 5 ans, notamment en raison de la technologie qui permet des milliers de tentatives d'hameçonnage en un seul clic. À la Sûreté du Québec, entre 2013 et 2017, les cas de fraude ont augmenté de 76 % tandis qu'au service de police de la Ville de Québec, elles ont explosé de 121 % pendant la même période. À Montréal, la hausse est plus modérée à 29 % sur 4 ans. On note tout de même 1100 plaintes l'an dernier. Les technologies permettent de faire des fraudes à l'international et une seule personne peut envoyer des fraudes de masse à 10 000 personnes en même temps, souligne le capitaine Alain Gaulin, responsable au service des enquêtes sur l'intégrité de l'économie à la Sûreté du Québec. Bien que les compagnies émettrices de cartes de crédit aient ajouté plusieurs mesures de sécurité pour contrer le problème, telles que le NIP, le NIP, et les puces, les fraudeurs ne sont pas freinés. On voit de moins en moins de cas de clonage de cartes de crédit, mais plus de cas d'achat sans carte en ligne et de vol d'identité, indique Valérie Lamarre, porte-parole pour le mouvement Desjardins. Les enquêtes sont devenues très complexes et les coupables difficiles à épingler. Par exemple, pour l'année 2017, sur les 992 plaintes pour fraude déposées à la SQ, à ce jour, seulement 179 de celles-ci se sont soldées par des accusations. Selon le capitaine Gaulin de la SQ, non seulement les dossiers sont nombreux par rapport au nombre d'enquêtes assignées, mais en plus, les enquêtes sont limitées par les délais de prescription. Pour les fraudes de moins de 5 000 $, une accusation doit être déposée dans les 6 mois suivants. Retrouver quelqu'un qui se cache derrière un ordinateur dans un lieu public, c'est complexe aussi. Je dois donc trouver qui est la personne coupable parmi les 20 qui s'y trouvaient, poursuit-il. Le chanteur Bono du groupe U2 a présenté hier ses excuses après des accusations parues dans la presse faisant état de harcèlement et de mauvais traitement à l'encontre de membres du personnel de l'ONG qu'il a cofondé, One. Le chanteur âgé de 57 ans s'est dit profondément désolé et furieux de ces accusations parues dans The Mail on Sunday et s'est engagé à rencontrer les victimes pour s'excuser personnellement. L'hebdomadaire britannique a détaillé une série d'incidents, dont l'un concerne une femme mariée travaillant au bureau de Johannesburg dans l'ONG. Elle affirme avoir été rétrogradée dans son emploi après avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec un député tanzanien. Selon le journal, Wan est accusée de n'avoir pas payé ses impôts en Afrique du Sud et d'avoir employé illégalement des travailleurs étrangers munis de visas de tourisme. Contrairement à toutes les autres provinces, le Québec n'a reçu qu'une fraction de l'argent promis par Ottawa en transport collectif parce qu'il s'est traîné les pieds pour choisir ses projets. Plus de 573 millions de dollars dorment dans les coffres d'Ottawa au lieu de servir à prolonger la ligne bleue du métro de Montréal ou de réaliser un autre projet de transport collectif du Québec, se désolent des experts de la question. Un processus d'approbation interminable du gouvernement québécois retarde les projets de plusieurs mois, de l'aveu même du ministre des Transports du Québec, contribuant chaque jour à la congestion routière. Il y a un manque de vision de Québec par rapport aux déplacements urbains, alors que pour la première fois, il y a un plan à Ottawa, réagit Philippe Cousineau-Morin, directeur de Trajectoire Québec. Le premier chien de support émotionnel de la police de Sherbrooke a fait son entrée au Panthéon québécois des animaux hier à Laval. Plus de 200 jeunes victimes ou témoins d'actes criminels ont bénéficié de sa présence depuis son entrée en service il y a une vingtaine de mois. Le rôle de ce labrador, mâle, de 3 ans, est de créer une diversion positive entre les personnes rencontrées et les intervenants judiciaires. Juste par sa présence, ce chien a apaisé des personnes qui livraient leurs témoignages devant les instances de justice. Mmh. 300 employés d'Hydro toujours aux États-Unis. Ils aident à rétablir coupés par les deux tempêtes qui ont déferlé sur la côte depuis le début mars. Alors, pas moins de 288 employés d'Hydro-Québec travaillent toujours sur le sol américain pour aider à rétablir le courant dans des centaines de foyers après le passage de deux tempêtes en une semaine sur la côte Est au début du mois de mars. On remet sur pied des réseaux de distribution dans des zones plus rurales ou forestières dans les États de New York et du Massachusetts, principalement, a expliqué Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec. Les forts vents ont cassé des poteaux et fait tomber des fils. Plusieurs habitants de la région ont démontré leur reconnaissance envers les travailleurs québécois. Lise Vanney, la sœur de Christiane Vanney, tuée dans une attaque de chien en juin 2016 à Montréal, a l'intention de poursuivre son combat pour faire interdire les pitbulls au Québec. Elle participera le 20 mars prochain aux consultations sur le projet de loi qui vise à interdire ce type de chien au Québec. Plus tôt cette semaine, Mme Vanney avait confié qu'elle craignait que le gouvernement Couillard recule dans son intention d'interdire les chiens de type pitbull au Québec. « J'ai quand même confiance que ça n'a pas été mis là pour rien, ce projet de loi », a-t-elle précisé en entrevue hier matin. Il a été écrit clairement avec une catégorie pour les pitbulls et une catégorie pour les chiens dangereux. Il faut surtout bien informer les gens. Selon elle, le projet de loi a été bien travaillé. Dans la mouture actuelle, les propriétaires de pitbulls pourront les conserver, mais il deviendrait impossible d'en acquérir de nouveau, a expliqué Mme Vanney. Les autres chiens dangereux seront très encadrés. On aime les chiens. Je suis une amoureuse des chiens, mais je ne veux pas que le chien soit dangereux pour l'humain. Je ne veux pas que mon voisin craigne le chien que j'ai dans ma cour, a-t-elle affirmé. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s'arrêtera à Montréal cette semaine. Les commissaires passeront la semaine dans la métropole à compter d'aujourd'hui jusqu'à vendredi à l'hôtel Bonaventure. Des familles et des survivantes témoigneront tout au long de la semaine. Il s'agira du second passage de la commission d'enquête pour des audiences communautaires au Québec après une première visite à Maniutenam, près de cette île, à la fin novembre. La commission d'enquête a réclamé la semaine dernière une prolongation de son contrat de 2 ans, ce qui allongerait sa durée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle évalue le coût de cette extension à environ 50 millions de dollars.
C'est une bretelle à gauche, un chemin intérieur, un cul-de-sac que tu verras si tu fais rien que regarder à droite. Ton petit cœur, faut le laisser aller au débrayage. Ça ressemble à rien que tu connais, c'est même pas sur la map. Du gazon et des oiseaux couchés dans des hamacs. Une maison aux quatre murs barbouillés d'orage. Tu comprends pas qu'est-ce qu'on fait là. Tant pis pour toi. Anyway, on t'attend pas pour inventer. Il y a la mer et les bateaux secoués par le ressac. Il y a des ponts où des grands arbres poussent dans les cracks. Des enfants aux grands drapeaux plantent des coquillages. On peut y crier autant qu'on veut et y'a personne qui braque. Quand il fait noir, on se réchauffe au silence des claques. Le matin, on boit des mots, on fait voler les pages.
Les sœurs Stéphanie et Mélanie Boulay avec la chanson Cul-de-sac.
La tournée des journaux régionaux, fin nostalgique pour l'anneau de glace Gaétan Boucher. C'est dans la section sport du Soleil d'aujourd'hui, Jean-Frédéric Moreau. D'anciens patineurs de vitesse ont enfilé leur équipement pour compléter un dernier tour de piste à l'anneau de glace Gaétan Boucher dimanche avant que les compresseurs ne cessent de réfrigérer la surface et que le grand chantier du centre des glaces ne prenne son envol. Nostalgique mais heureux de l'intérêt grandissant de la jeune génération envers le sport, plusieurs sont prêts à tourner la page. Pour moi, ce sont des souvenirs qui reviennent après mes débuts dans la compétition. Avant l'anneau de glace, il fallait chercher les patinoires extérieures ou les stationnements de centres d'achat pour patiner. C'est remémoré Maurice Gagné qu'on surnomme le père du patinage de vitesse au Québec. L'homme qui a consacré plusieurs décennies au sport a vu grandir de brillants athlètes dont le multiple médaillé olympique Gaétan Boucher. Pour l'ex-olympienne Marie-Pierre Lamarche, qui a patiné lors des Jeux de Calgary en 1988, l'anneau de glace Gaétan Boucher lui rappelle d'innombrables souvenirs. « Mon plus drôle souvenir, c'est qu'avant, il y avait un gros arbre dans le coin de la glace, et comme l'éclairage était central, l'arbre faisait de l'ombre sur la glace. J'avais 5 ans et j'avais peur. Mes amis et moi, on essayait d'accélérer dans le virage pour passer l'ombre de l'arbre qui nous faisait extrêmement peur, surtout l'hiver avec le craquement », a partagé l'athlète aujourd'hui âgé de 49 ans. J'ai aussi souvenir d'une compétition où il ventait tellement qu'une amie reculait carrément sur la glace, ajoute-t-elle dans le même élan. Tant de souvenirs, dit-elle, accumulés après les heures d'entraînement passées sur la glace. Gaston Roy, qui fait maintenant partie du club des maîtres, patine toujours malgré ses 77 ans bien assumés. Il ne cache pas que les anecdotes sont nombreuses lorsque le soleil lui demande d'en partager une. En 2001, lors d'une compétition internationale, il pleuvait tellement qu'on partait de la porte pour se rendre à la glace et on était trempé, a débuté celui qui s'entraîne à l'anneau de glace depuis 28 ans. La même année, les employés responsables de la surface avaient déclenché une grève. si bien que les patineurs n'ont pu commencer à s'entraîner qu'à la mi-janvier, alors que la compétition avait lieu à la fin février. Les premières compétitions qu'on a organisées, ce sont elles qui ont permis de développer l'intérêt des parents à nous aider. Ça nous a permis d'être compétitifs et quelques années après avoir eu l'anneau de glace, déjà on performait au niveau national, a avancé Maurice Gagné. Entouré d'anciens athlètes et de gens du public, M. Gagné a patiné une dernière fois autour du célèbre anneau qui a traversé les époques. Le temps est venu de concrétiser un autre rêve, celui de construire une nouvelle infrastructure, a déclaré le président du conseil de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Rémi Normand. Le Centre des glaces fera de Québec un centre névralgique pour le patinage de vitesse dans l'Est du Canada, a-t-il ajouté au sujet du complexe qui devrait être prêt d'ici 2020. C'est merveilleux, surtout pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux, car on va arrêter de geler, a rigolé Gaston Roy, heureux de voir que la relève est bien présente. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, voir nos jeunes qui ont pu progresser et se rendre aux Olympiques. Si on n'avait pas eu la glace ici à Sainte-Foy, on n'aurait peut-être pas d'athlète aux Olympiques, a commenté M. Gagné. Mais d'ici à son premier coup de patin sur le nouvel anneau intérieur, Maurice Gagné reconnaît être un peu beaucoup nostalgique. « J'ai passé une bonne partie de ma vie sur la glace », a-t-il confié. Quatre périodes importantes pour l'anneau de glace Gaétan Boucher, 1972-1985, la surface glacée est naturelle, le système de réfrigération sera construit en 85. 86, tenue du mondial junior de patinage de vitesse. 87, tenue du championnat du monde de sprint. 92, Coupe du monde de patinage de vitesse. Il s'agit du dernier événement d'envergure à avoir lieu à l'anneau de glace. Dans le droit, Jacques Normand Sauvé, bien triste nouvelle. Les services de police de Gatineau et des collines de l'Outaouais ont annoncé samedi matin par communiqué que Madame Diane Lafontaine, disparue le 28 février dernier, avait été retrouvée morte dans un stationnement commercial du secteur de Hall vendredi en début de soirée. C'est un policier du SPVG à Gatineau qui a localisé et identifié la victime. Son véhicule a aussi été retrouvé. La police de Gatineau a précisé qu'aucun acte criminel n'est suspecté dans ce dossier et qu'une enquête, selon la loi du coroner, a été entamée. La Mazda 3 blanche de Diane Lafontaine, 51 ans, aurait été aperçue plus tôt cette semaine à Gatineau. Des informations laissaient croire que le véhicule circulait mardi dernier 6 mars sur le boulevard Saint-Joseph, en direction sud dans le secteur Hall, mais l'identité de la personne qui était au volant du véhicule n'a jamais été confirmée. Cette randonnée demeure toujours un mystère. L'ancienne présidente du Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de l'Outaouais et résidente de Chelsea devait se rendre à l'hôpital de Hall le 28 février, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle n'a jamais été revue depuis. Elle aurait laissé son téléphone portable chez elle avant de quitter la maison. Le service de police de la MRC des collines de l'Outaouais et des membres de la famille de Mme Lafontaine avaient de bonnes raisons de craindre pour la sécurité de cette dernière, car elle souffrait d'un choc post-traumatique à la suite d'un accident. Dans le quotidien, Myriam Gauthier, le premier ministre Justin Trudeau fera finalement 3 arrêts dans la région lundi, en rencontrant des dirigeants et des travailleurs de l'industrie de l'aluminium à Chicoutimi, Jonquière et Alma, lors de la première journée de sa tournée d'usine visant à appuyer les industries canadiennes de l'aluminium et de l'acier. Le premier ministre canadien visitera le Centre des technologies de l'aluminium, le Centre technologique AP60 de Rio Tinto et terminera sa tournée en rencontrant les travailleurs de l'usine Alma de Rio Tinto. Le cabinet du premier ministre avait tout d'abord annoncé la semaine dernière que la visite se limiterait aux installations almatoises de Rio Tinto, où une rencontre avec les travailleurs syndiqués était prévue. Aucun passage dans la circonscription de Chicoutimi-le-Fjord n'était alors planifié. La circonscription est vacante depuis novembre en raison de la démission du député libéral Denis Lemieux. La date de l'élection partielle n'est toujours pas connue et aucun candidat n'a été annoncé par le Parti libéral du Canada. Justin Trudeau a finalement décidé d'allonger sa visite régionale en débutant sa journée par deux arrêts à Saguenay, soit à Chicoutimi et à Jonquière. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et député de Roberval prendra également part aux deux événements. Dans le Nouvelliste, une journée de rêve pour Olivier. C'est un jeune homme tout sourire qui est arrivé à la ferme La Bisonnière de Saint-Prosper dimanche matin après une belle randonnée de motoneige. Olivier Pagé, atteint de paralysie cérébrale, a eu droit à une véritable journée de rêve et de liberté, en compagnie d'une soixantaine de motoneigistes réunis pour l'occasion. À son arrivée, après une bonne randonnée entre Trois-Rivières et Saint-Prosper, Olivier Pagé affichait en effet le large sourire d'un homme heureux. Il confiait qu'il s'était bien amusé, qu'il avait adoré sa randonnée de motoneige. « J'ai vécu une journée mémorable », nous a écrit Olivier Pagé en fin de journée, plus à l'aise de s'exprimer par écrit que par la parole. Cette journée de rêve était inespérée pour ce jeune homme de 29 ans. En décembre dernier, le Nouvelliste publiait une chronique d'Isabelle Légaré où Olivier Pagé témoignait du poids de la solitude. Il s'était d'ailleurs tourné vers les réseaux sociaux pour trouver l'amitié et l'amour. Mario Massicotte, un agriculteur et conseiller municipal à Saint-Maurice, a été très ému lorsqu'il a lu le témoignage d'Olivier Pagé. Lui et son fils Rémi, qui a presque le même âge qu'Olivier, ont décidé de lui organiser une journée de rêve où ils pourront également amasser des fonds pour l'Association de la paralysie cérébrale. « J'ai été ému et j'ai voulu aller plus loin. » J'ai senti le cœur, le cri du cœur d'Olivier et ça m'a frappé, à vous, M. Massicotte. L'organisation de cette journée nécessitait des fonds. Lors de l'achat de sa nouvelle motoneige à Motosport 4 saisons, Mario Massicotte s'est entendu avec le commerce pour faire baisser le prix d'achat de son engin et ainsi pouvoir, avec l'entreprise, allouer des fonds à cette journée. C'était aussi pour amener de l'argent pour l'Association de la paralysie cérébrale. On a juste à se mettre une heure dans la peau d'Olivier et personne ne va vouloir changer de place avec lui. On croit qu'on a de gros problèmes, mais lorsqu'on regarde les problèmes d'Olivier, ils sont pas mal plus petits, souligne M. Massicotte. Olivier nous donne à tous une leçon de vie. En effet, la paralysie cérébrale est une maladie cruelle qui atteint notamment les fonctions motrices et du langage d'une personne. Cela ne change toutefois pas les capacités intellectuelles de la personne. Voilà pourquoi les personnes atteintes de paralysie cérébrale se disent prisonnières de leur corps. Olivier et Rémi ont partagé la même motoneige pour le plus grand plaisir des deux jeunes hommes qui se disaient ravis de l'expérience. Du même âge, ils ont développé une belle relation. Olivier Pagé avoue que de se faire de nouveaux amis était très important. « On a eu beaucoup de fun ensemble, c'était le but », souligne Rémi Massicotte, le chauffeur désigné de cette journée. Michel Pagé était très fier de son fils après la randonnée. Celle qui lui offre au quotidien un soutien indéfectible a laissé son garçon partir seul en randonnée avec le groupe de motoneigistes du club de motoneige de Champlain. Ce n'est que du bonheur pour moi et que d'émotion. Ce que nous ne voyons pas, c'est aussi l'avant, la préparation de cette journée. L'émotion d'Olivier de faire ça avec Rémi, c'est vraiment quelque chose pour lui. Les deux se sont écrits par Internet pour préparer tout ça. C'est vraiment quelque chose de particulier que des gens avec de grands cœurs qui n'ont pas côtoyé de personnes handicapées peuvent faire quelque chose comme ça. C'est extraordinaire. Âgé de 29 ans, Olivier Pagé est un jeune homme tout à fait normal qui a envie de liberté. Partir en motoneige sans sa mère lui a offert ce sentiment d'autonomie recherché par tous les jeunes. À travers le handicap, il y a un être assez exceptionnel. Il a toute sa tête, mais pas son corps, précise Michel Pagé. « Je suis toujours dans sa vie. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes significatives dans sa vie comme Rémi et de rencontrer des gars qui ont le même âge. » Michel Pagé était donc extrêmement heureuse de voir son fils voler de ses propres ailes. Le cortège d'une quarantaine de motoneiges a été aidé par plusieurs services de sécurité, incendie et de police. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce 12 mars 2018. Restez avec nous dans un petit moment, la dernière demi-heure de l'émission avec les actualités culturelles et les sujets libres.
Entendre le Britannique Birdie et la pièce People Help the People.
Actualité culturelle exclusive à la presse, trois fois le page au TNM, c'est un texte de Luc Boulanger. Robert Lepage va recréer l'ultime tragédie de Shakespeare, Coriolan. Et deux fois plus tôt qu'une, la presse a appris qu'en janvier 2019, le réputé metteur en scène signerait une nouvelle version de la pièce de Shakespeare dans le cadre de la version 2018-2019 du Théâtre du Nouveau Monde qui sera dévoilée le 9 avril. Robert Lepage sera omniprésent au TNM, sa maison montréalaise, au cours des prochains mois. À la fin de juin, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, il signera la mise en scène du spectacle Slave avec Betty Bonifaci, ou Slave, produit par Ex Machina. Le comédien reprendra ensuite son merveilleux solo 887, acclamé par la critique et le public du 23 octobre au 3 novembre. Les billets sont en vente dès demain à midi au guichet du TNM et sur le web. Aussi à Stratford, comme si ses activités au Québec ne suffisaient pas, le créateur de Vinci collabore aussi avec deux compagnies canadiennes prestigieuses. À l'invitation du directeur artistique Anthony Simolino, qui court après Lepage depuis des années, il fera son baptême du Festival de Stratford en Ontario le 9 juin, avec sa mise en scène d'une production originale en anglais de Coriolanus ou Coriolanus, mettant en vedette des acteurs canadiens. La production de Lepage à Stratford est l'une des pièces phares du festival et elle sera à l'affiche jusqu'au 20 octobre. Qui plus est, le Ballet national du Canada, BNC ou BNC, à Toronto, lui a demandé de faire la mise en scène du ballet Frame by Frame en juin, sur des chorégraphies du Québécois Guillaume Côté. Cette adaptation, cette création du Ballet national du Canada rend hommage au cinéaste Norman McLaren. Secouer Shakespeare. La version française de Coriolan, produite par le TNM en collaboration avec Ex Machina, réunira autour de la traduction de l'auteur et poète québécois Michel Garneau une toute nouvelle et imposante distribution d'interprètes québécois. Robert Lepage a eu 60 ans en décembre dernier. Or, ses débuts au théâtre dans les années 80, il ne cesse de revenir à Shakespeare. Il ne cesse de revenir à Shakespeare. Il a signé une quinzaine de mises en scène de son auteur fétiche. Insigne honneur, il a été le premier Nord-Américain à monter Shakespeare au prestigieux Royal National Theatre de Londres. Après deux productions acclamées en 1983 et 1993 au FTA, le Festival Transamérique, Lepage revisite donc pour la troisième fois l'histoire de Coriolan, ce Romain courageux, qui revient d'exil pour mieux conquérir à lui seul la ville ennemie de Coriolès. 887 au TNM, du 23 octobre au 3 novembre prochain, et Coriolan au TNM à partir du 15 janvier 2019. La chronique d'Hugo Dumas, la voix du français, s'il vous plaît. Je ne suis pas du genre à hurler en français, s'il vous plaît, quand un concurrent de la voix s'époumonne en anglais pendant les auditions à l'aveugle. C'est déjà une étape hyper stressante. Si cette personne se sent plus à l'aise dans la langue de Shakespeare, aucun problème avec ça, pourvu que le français réapparaisse pendant son parcours, bien sûr. De toute façon, personne ne gagne la voix en offrant que des prestations en anglais. Même Johan Garneau et Kevin Bazinet, probablement les champions les plus anglophiles de cette télécrochet, avaient poussé la note en français respectivement en demi-finale de la voix 2 et de la voix 3. Hier soir, le passage de Katrina Robert, une chanteuse québécoise originaire de Chelsea en Outaouais, m'a beaucoup agacée. La jeune femme de 26 ans était incapable de prononcer une seule phrase complète en français et incapable de décoder le discours enflammé que lui a fait Éric Lapointe. C'était gênant. Il y a des participants à la voix qui débarquent de Vancouver ou de Winnipeg qui s'expriment mieux en français que « la princesse de la soul », entre guillemets. Quand les coachs ont réalisé que Katrina Robert, alias Bella Cat, ne comprenait strictement rien, ils ont tous basculé vers l'anglais. Et nous avons eu droit à une belle rafale de sous-titres. Oh, elle a été excellente, Katrina Robert, sur Voodoo Woman de Coco Taylor. Probablement la meilleure performance de la soirée. C'est tout de même déprimant de constater que les deux solitudes existent encore au sein de cette génération. Comment peut-on habiter le Québec et ne pas s'intéresser une miette à la langue française? Ça me dépasse. Ce handicap nuira grandement à Katrina, qui chante pourtant comme Janis Joplin dans sa progression vers le trophée. Sa coach, Lara Fabian, devra probablement lui donner des leçons privées de français 5 soirs par semaine. Trêve de querelles linguistiques? Cette 5e et dernière ronde des auditions à l'aveugle n'a pas été aussi éclatante que celle de la semaine dernière. Le rocker français Emmanuel Kress, 37 ans, qui a remis le groupe Mr. Big sur la carte, n'arrivait pas à la cheville du métalleux Louis-Paul Gauvreau repêché par Isabelle Boulay l'an passé. Yann Brassard, 24 ans, de Baie-Saint-Paul, s'est bien débrouillé avec sa reprise de « Man in the Mirror » de Michael Jackson. Contrairement à sa coach Lara Fabian, je n'ai pas vécu de moments mystiques avec une connexion là-haut. Un des doux moments de cette soirée a été le duo qu'a improvisé Lara Fabian avec Sherry Lynn Toka, 27 ans, sur « Je t'aime ». C'était émouvant. Et avez-vous remarqué à quel point le français de Sherry Lynn, né de parents philippins, était impeccable? Je ne gagerais pas un vieux deux sur les chances de la chancelante Sabrina Ramos, 34 ans, qui a refait amoureuse de Véronique Sanson. Désolée, mais c'est clair qu'elle ne traversera pas l'étape des duels qui s'amorce dimanche. Les Van Hoo, Samuel Babineau et Elisabeth Alain, que nous avons vus hier, ont été bien corrects, sans toutefois nous procurer de gros frissons d'émotion. Quatre prix pour Hochelaga, Terre des âmes. Maudy, mettant en vedette Sally Hawkins, a été sacré meilleur film. Le film Maudy, récit d'une femme de la Nouvelle-Écosse arthritique qui travaille comme femme de ménage tout en se forgeant comme artiste, a remporté le prix du meilleur film au prix Écran canadien hier soir à Toronto. Le gala soulignant l'excellence au cinéma et à la télévision comptait un grand nombre de finalistes québécois. La récolte québécoise se résume toutefois principalement aux 4 prix remis au film Hochelaga, Terre des âmes de François Girard, dont celui de la meilleure direction artistique, François Séguin, et celui de la meilleure direction photo, Nicolas Bolduc. Le film a aussi obtenu les prix du meilleur son d'ensemble et des meilleurs effets visuels. Le film d'horreur Les Affamés de Robin Aubert, qui était notamment finaliste dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, a reçu le prix pour les meilleurs maquillages, Éric Gosselin et Marie-France Guy. Ava, de la cinéaste montréalaise d'origine iranienne Sadaf Fourougi, a valu à Bahar Nouyan le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien. Le film a aussi obtenu le prix du meilleur premier long-métrage. Le prix Écran d'or pour un long-métrage soulignant les recettes au guichet les plus élevées au cours de l'année a été remis à De Père en flic 2. 11 des 15 films qui avaient reçu le plus de mises en nomination sont du Québec. En plus des Affamés, les films québécois Ava, C'est le cœur qui meurt en dernier et La petite fille qui aimait trop les allumettes étaient finalistes dans la catégorie du meilleur film. Le prix de la meilleure réalisation est allé à Aisling Wash pour Maudy, qui a été préféré à Yann Lagarde pour All You Can Eat Buddha, Alexis Durand, Bro, pour C'est le cœur qui meurt en dernier, Robin Aubert pour Les Affamés et Sadaf Fourougi pour Ava. Sally Hawkins, finaliste aux plus récents Oscars pour son rôle dans The Shape of Water, a remporté le prix pour la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle pour Maudy. Elle n'était pas présente à la cérémonie. La catégorie comprenait notamment Denise Filiatro pour C'est le cœur qui meurt en dernier et la jeune Marine Johnson pour La petite fille qui aimait trop les allumettes. La ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, était sur scène pour l'annonce de la lauréate. Soulignant les personnages féminins forts, Mme Joly a évoqué le mouvement « Moi aussi », disant en français être solidaire avec toutes les femmes du milieu. Le partenaire de jeu de Sally Hawkins dans Maudy, Ethan Hawke, a quant à lui obtenu le prix du meilleur acteur de soutien. Le film est aussi reparti avec les prix du meilleur scénario original, des meilleurs costumes et du meilleur montage pour un total de 7 prix.
Thank you. paroles de jazz et de ska. Je chante en faisant des clics et des claques, des plics et des blocs, des tics et des tocs. Mais je les aux horloges, soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie Charleston, Java et Square Dance, la valse à mille temps et la mazurka. Mais je les aux moineaux, le soin de faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes copines. Je garde l'espoir d'être un jour une star, changer ma vie en fête en faisant des claquettes, claquettes. Ouh, 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 ouh. Qui me fera faire mon premier pas sur scène. Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro, Goldwyn Mayer. Tous les rêves de ma vie, je les passe au fond d'un casino, Las Vegas. Et dans mon cœur, il y a un regret qui s'appelle Broadway.
Diane Dufresne, qui reprenait la chanson de l'autruche, une pièce interprétée à l'origine par Sylvie Vartan.
Sujet libre, ils sont 20 centenaires dans une même résidence. Certains attribuent leur longévité à leurs habitudes de vie, d'autres à la chance. Après avoir survécu à 3 cancers, Jeannie Burson soufflera ses 100 bougies en novembre prochain. Le secret de sa longévité? Sa tête dure, lance sa fille. Je n'aurais jamais pensé vivre aussi vieille à cause de la maladie. Mais ce n'est pas nous qui décidons, n'est-ce pas? A confié en souriant celle qui a combattu des cancers de l'utérus, du côlon et du sein au cours de sa vie. Une grande fête avait lieu hier à la résidence Le Waldorf de Montréal, dans le quartier Côte-Saint-Luc, pour célébrer l'anniversaire de 9 aînés qui atteindront l'âge vénérable de 100 ans cette année, portant à 20 le nombre de résidents centenaires. Ensemble, ces personnes totalisent plus de 2000 ans d'histoire. C'est extraordinaire à souligner. Michael Goldwax, directeur général de Sélection Retraite. Entourés de leur famille, les 20 centenaires ont reçu une lettre signée par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et une autre par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L'une des doyennes du groupe, Emily Clark, fêtera son 105e anniversaire en juin. En 1917, elle a survécu à l'explosion qui a fait 2000 morts et 9000 blessés à Halifax, l'événement le plus meurtrier au Canada. À la suite de cette catastrophe, Mme Clark s'est grandement rapprochée de sa famille. Elle est d'ailleurs très fière de sa défunte sœur, la militante contre la ségrégation raciale Viola Desmond, qui figurera sur les nouveaux billets de 10 $ canadiens. « Je n'ai jamais fumé ni bu de ma vie et j'ai toujours beaucoup lu et étudié. « Je pense que c'est ce qui m'a gardée jeune », a-t-elle raconté, assise paisiblement dans son fauteuil roulant. « Ce qui m'impressionne le plus chez ma mère, c'est son intellect. Même à son âge, elle lit encore régulièrement », a mentionné son fils, Graham Clark. De son côté, Mike Levine, qui aura 101 ans en juin, attribue notamment sa longévité au fait d'avoir grandi sur une ferme. Pendant 25 ans, je travaillais tous les jours à l'extérieur, à l'air frais. Ça m'a permis de rester en forme, a-t-il expliqué. Encore aujourd'hui, M. Levine a une poignée de main puissante et un vif sens de l'humour. Il adore faire rire ses deux arrière-petites filles qui ne le lâchaient pas d'une semelle hier. Même si la vieillesse ne le réjouit pas, le centenaire parvient tout de même à voir cette réalité d'un bon œil. À mon âge, on n'est plus capable de faire tout ce que l'on faisait avant. Mais quand on fait quelque chose, on a tout notre temps. On n'est jamais pressé, a-t-il fait valoir. On aurait bien voulu qu'elle se rende jusqu'à 100 ans et même plus. Le Myland pleure la mort de « sa mère », entre guillemets. Figure emblématique, Ruth Wilinski a servi plusieurs générations de clients au restaurant fondé en 1932. Les résidents et commerçants du Myland sont émotifs depuis qu'ils ont appris le décès de Ruth Wilinski, morte à l'âge de 98 ans vendredi et qu'ils considéraient comme la mère du Myland. Figure emblématique du monde de la restauration à Montréal, Mme Wilinski avait fondé le restaurant Wilinski en 1932 avec son défunt mari. Le décor de l'institution est presque resté figé dans le temps depuis 1952. Le casse-croûte situé au coin des rues Clark et Fairmont à Montréal a bâti sa notoriété en partie grâce à son sandwich spécial Wilinski, fait avec de la bologne, de la moutarde et du salami. Les clients les plus fidèles ont toujours été réconfortés à l'idée de retrouver les 9 tabourets qui bordent le comptoir de l'endroit et de croiser Mme Wilinski, qui était adorée dans le quartier. Cette dernière avait repris les rênes du commerce après la mort de son mari, Mo, en 1984. « Je l'aimais beaucoup. C'était vraiment une femme old school et raffinée », témoigne Nat Scalia, qui travaille dans le café en face du Wilinski. Il va manquer quelque chose au Myland sans elle et les gens vont s'ennuyer de cette dame connue par 3 ou 4 générations dans le coin. Charles Doyle a 85 ans et il habite dans la même maison du Myland depuis 56 ans. Monsieur Doyle côtoyait Ruth Wilinski à son restaurant depuis 1952 et il affirme qu'elle était un peu comme la mère du Myland. On ne la voyait plus depuis quelques années, se désole le Montréalais. C'est triste, moi je connais ses 5 enfants et ses petits-enfants qui venaient au resto. Elle va manquer à sa famille, mais aussi aux résidents du Myland. Pascal Henrard est un client du Wilinski depuis maintenant 30 ans et confie que ce restaurant est pour lui un voyage dans le temps. « Aussi loin que je me souvienne, Ruth était là, raconte-t-il, avec ses 2 fils et puis sa fille. Des grands silences derrière le comptoir. Quand j'avais fini mon premier spécial, Ruth n'avait pas besoin de dire grand-chose. » Un petit geste de la tête et elle déposait mon 2e spécial, comme d'habitude. Franck Gattuso, un commerçant situé tout près du restaurant, connaît bien les Wilinski. Chaque matin, il va chercher son café-filtre dans cette entreprise. Ruth était travaillante, incroyable et inimitable, exprime avec émotion M. Gattuso. J'aimerais faire autant qu'elle avec mon commerce. Mais elle était trop originale et unique. J'ai beaucoup de respect pour cette femme. Les employés du Wilinski seront en période de deuil jusqu'au vendredi 16 mars. D'ici là, le petit commerce du Myland, qui est devenu une figure emblématique de Montréal, restera fermé. Les funérailles de Mme Wilinski ont été célébrées hier dans la plus stricte intimité, selon l'avis de décès qui a été diffusé par ses proches. Lettre ouverte aux médecins, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Denise Bombardier. À la suite de ma chronique de samedi, jamais je n'aurais cru que tant d'entre vous réagiraient avec une telle violence au fait d'aborder le problème des ententes salariales vous concernant. Certains commentaires m'obligent à m'interroger sur votre éthique. Un cancérologue outré précise qu'il me soignera « quand même » entre guillemets, le jour où je me retrouverai dans son bureau. Entre parenthèses, c'est-à-dire où j'aurai un cancer. C'est inqualifiable. Les médecins sont de grands sorciers qui, par profession, affrontent la mort au quotidien. Pour cela, la société leur accorde un statut d'élite. De cette reconnaissance découle l'acceptation sociale de revenus conséquents. Qu'ils soient plus élevés que ceux de bon nombre de professionnels n'est pas scandaleux. Nous vivons dans un monde déspiritualisé, déshumanisé, où l'argent est devenu le premier critère de réussite et d'importance sociale. C'est pourquoi le mot « vocation » s'applique peu désormais à votre profession. Mais loin de moi l'idée de généraliser. Bon nombre d'entre vous auraient pu signer ma chronique de samedi. Car je sais que vous êtes nombreux à vivre avec malaise ce pactole qui vous tombe dessus. D'où l'hostilité exprimée par la population et que vous comprenez. Les citoyens futurs malades vous craignent. Ils dépendent de vous. Vous incarnez leur espoir en cas de maladie grave. Vous êtes les seuls à pouvoir les délivrer de leur angoisse. Les malades savent que leur vie est entre vos mains. Cela n'a pas de prix. Or, vos ordres professionnels qui parlent en votre nom, ou plutôt au nom de votre portefeuille, oubliant le serment d'Hippocrate, ne possèdent ni l'empathie, ni la sensibilité, ni la grandeur d'âme digne des qualités rattachées à la profession médicale et idéalisées à travers l'histoire. Et vous qui les appuyez spontanément et qui vous plaignez de travailler trop et dans des conditions inacceptables, devriez comprendre que l'incurie des gestionnaires et la vétusté de nombreux hôpitaux employant un personnel réduit, épuisé comme vous, ne sont pas sans rapport avec les milliards du budget de la santé qui vous sont octroyés par vos collègues politiciens. Dans le secteur public québécois, la distribution de l'argent est affaire de hiérarchie. Vous êtes placé au haut de l'échelle. Comprenez-vous que si le Québec était plus riche, vos salaires seraient plus élevés, mais les citoyens ne se révolteraient pas car eux aussi seraient financièrement plus à l'aise. Je sais que la grogne monte dans vos propres rangs. Certains d'entre vous ont osé prendre publiquement la parole. Devant le déferlement de commentaires déchaînés de médecins sur le site du journal et qu'on a dû effacer selon des règles qui nous gouvernent, j'imagine le courage de ces médecins travaillant avec ses collègues vindicatifs. Le Québec ne peut pas vivre dans l'hostilité face au corps médical. Les spécialistes du chantage aveuglés par leur rage contre ceux qui les critiquent doivent retrouver leur sang-froid. Le Québec ne survivra pas à un tel affrontement émotif. Vous êtes nos médecins et nous sommes vos patients. La force de cette réalité impose un minimum de dignité et de raison retrouvée. Et c'est avec la lettre ouverte aux médecins signée Denise Bombardier, publiée dans le Journal de Montréal, que s'achève cette émission, le quotidien des quotidiens du lundi 12 mars. Ici Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été là. Je vous invite à rester là puisque dans quelques minutes, j'anime les paractualités. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.